Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est pour donc la dernière partie de cette aventure. Donc, une table ronde qu'on a choisi d'appeler Focus sur l'accompagnement des étudiants artistes dans l'Union européenne. Mais le titre est peut-être un peu déjà, on se projette dans l'avenir. L'accompagnement qui reste à faire pour créer d'abord les conditions donc, de cet accompagnement. Donc, je pense que vous avez déjà pris connaissance donc, de l'existence de l'Alliance universitaire EC2U. Donc, c'est l'Alliance des universités européennes qui partagent l'ambition d'intégrer la vie du campus et celle de la ville. Et donc, font partie de cette alliance, à part Poitiers, c'est donc Coimbra, Salamanque, Pavie, Linz en Autriche, Iași en Roumanie, Iéna, Turku, Umeå, et avec un statut d'université associée, vivent en Ukraine. Donc, à l'intérieur de EC2U, qui est structuré donc, avec plusieurs work packages, donc groupes de travail. Le work package 2, que je représente ici, c'est-à-dire work package 2, vie de campus, ça englobe plusieurs champs d'action. D'abord, la santé, le bien-être physique et mental, ainsi que le sport. Ensuite, et ça c'est un point important aujourd'hui, les mobilités respectueuses de l'environnement, ainsi que les mobilités inclusives à tout égard, et l'accompagnement et la mise en contact des étudiantes et étudiants internationaux. Et c'est le dernier point, mais pas le moins important, l'art et la culture, parce que c'est vie du campus. Voilà. Hier soir et encore aujourd'hui, vous avez sans doute eu la possibilité de constater que c'est une vraie chance d'avoir donc un CDN, le META, sur ce campus. L'art et la culture à cette université ont donc reçu un énorme coup de pouce et grâce à ce potentiel augmenté de coopération entre d'un côté art et sciences, ensuite art de la scène et médiation scientifique, recherche, création, activités artistiques, associatives. Donc, notre périmètre d'action ne se limite pas à ce campus. Donc, il faut conjuguer EC2U et ce qu'on a ici localement. Nous visons donc de développer ces domaines de concert avec les autres campus de notre alliance. Et j'avoue tout de suite, nous sommes au début, vraiment tout au début. Au sein du Work Package 2, nous avons donc créé un réseau art et culture pour les campus de notre alliance. Donc, un réseau qui pourrait donner des impulsions, du moins c'est ça notre rêve, à plus de coopération artistique et à rendre une mobilité européenne pour les artistes plus facile, du moins entre les partenaires d'une alliance dans un premier temps. Donc, c'est à voir. Presque toutes les universités françaises font partie des alliances. Ça pourrait aussi donner des impulsions, peut-être, dans ce sens-là. Donc, voilà pour le cadre de cette présentation à plusieurs voix. Donc, je présente donc, les discutantes. Nous avons dans l'ordre des présentations, d'abord donc, Caroline Bellan-Ménangier, qui est directrice du service universitaire des relations internationales et des étudiants étrangers. Normalement, on dit juste surier. Et donc, Cécile Crémois, qui travaille avec elle et qui est référente Erasmus, donc au même service. Et donc, Lily Rosebound, qui est technicienne de projet à la maison des étudiants, donc ici, et au surier, et qui travaille aussi pour le Work Package 2, donc DC2U. Voilà, donc c'est la présentation. Et qu'est-ce qu'elles vont donc nous présenter? Donc, il y aura d'abord la présentation donc, du surier avec Caroline Bellan-Ménagier, ainsi que Cécile Crémois. et elles vont parler des possibilités de mobilité en général avec quelques informations, donc un potentiel qui pourrait faciliter des mobilités donc, des étudiantes et étudiants artistes confirmés. Et ensuite, Lily va nous présenter donc sa enquête flash conduite par téléphone avec les homologues donc du Work Package 2 dans d'autres universités européennes. Nous sommes donc vraiment tout au début de ce repérage qui sont nos homologues et partenaires potentiels. Et on a quelques résultats intéressants, du moins on l'espère. Donc je laisse la parole tout d'abord à Caroline Bellan-Ménagier.
Merci Marion, bonjour tout le monde. Alors ce qu'on voulait faire avec Cécile, à la demande de Céline Magnan, la directrice de la Maison des étudiants qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, c'était vraiment vous proposer le cadre dans lequel travaillent toutes les universités normalement, qui est un cadre européen Erasmus qui permet des mobilités intra-européennes et hors Europe, parce que pour des questions d'attractivité et de valorisation de ce qui se passe dans nos établissements, l'Europe met pas mal d'argent sur la mobilité en dehors des pays européens. Alors c'est un dispositif un peu particulier, mais sur lequel à Poitiers on est en pointe. On a 14 partenariats, on est le premier, selon les années, ou le deuxième pays qui obtient des financements sur ces thématiques-là. Et elles sont assez intéressantes aussi. Donc on voulait vous présenter ces cadres-là qui sont à la fois c'est inflexible parce que c'est de l'argent public européen, ils ont des règles spécifiques, mais finalement on peut jouer sur certains autres financements qui sont liés, on va vous expliquer, c'est un petit peu technique, sauf que ça donne des marges de manœuvre. Et ça ouvre effectivement des opportunités assez intéressantes. Donc écoute, Cécile, est-ce que tu peux faire un petit panorama de l'existant ? Je ne sais pas, Marion, comment tu veux gérer après éventuellement les questions-réponses ou c'est aussi au fil de l'eau ?
Mais il y aura aussi à la fin donc, un moment dédié pour vos questions. Donc mais si c'est urgent, n'hésitez pas.
Oui, voilà. L'idée, c'est pas de vous faire une formation sur Erasmus, ses possibilités, ses opportunités. C'est plus de vous dire, on sait que c'est pas toujours évident de bien comprendre les cadres et ce qui est possible de faire. Donc, on a essayé de résumer et de mettre sur un PowerPoint qu'on espère les organisateurs vous transmettront, qui vous permettront aussi d'aller dans vos établissements ou de revenir nous voir et pour voir si on peut développer un certain nombre d'actions prioritaires autour de ce statut qui est une belle opportunité. Donc, Cécile? Je te laisse.
Merci. On a essayé de résumer. Alors, les slides sont assez chargés, mais c'était parce que ce document-là va vous être remis. Donc, en fait, on voulait très complet. Je ne vais pas le lire complètement parce que ça n'a pas de sens. Donc, le premier point, en fait, ce sont les mobilités Erasmus+ intra-européennes. Donc là, on va réellement parler des mobilités qui s'adressent à tous les étudiants, quel que soit leur statut. Les types de mobilité qu'on peut faire sous Erasmus intra-européenne, c'est-à-dire des mobilités vers tous les pays d'Europe, ce sont des mobilités d'études, des mobilités de stage entre 2 mois et 12 mois par cycle d'études. Là, il est également possible de faire des mobilités courtes dans participation à un BIP, Blended Intensive Program. C'est-à-dire que là, on fait de la mobilité courte qui est en lien avec un programme qui est préparé par l'établissement d'accueil. C'est là que ça peut être intéressant pour le statut particulier des étudiants artistes, puisque étant que c'est de la mobilité courte, il y a moins d'impact sur votre activité au quotidien. Concernant les mobilités internationales en hors Europe, donc à l'Université de Poitiers, nous travaillons avec cette cartographie de pays. Donc on travaille avec Haïti, le Canada, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l'Ukraine, l'Asie centrale, l'Indonésie, l'Afrique subsaharienne avec Madagascar et le sud de la Méditerranée. Donc tous ces pays-là sont des pays avec lesquels on travaille. On a des partenariats privilégiés, des universités particulières avec lesquelles on travaille. Et c'est le même type de mobilité. C'est-à-dire que ce sont des mobilités longues ou courtes avec participation, encore une fois, à des BIP. On peut également faire de la mobilité hybride, c'est-à-dire qu'on fait de la mobilité hybride. On peut partir sur des temps courts en ayant un temps de travail à distance par les outils numériques, des visios notamment, des choses comme ça, pour que les mobilités soient éligibles. Et là, encore une fois, c'est le type de mobilité qu'on privilégierait pour le statut d'étudiant artiste. Tu veux peut-être parler,
je voulais vous donner une information sur la manière dont un établissement obtient des financements Erasmus. Parce qu'en fait, ça ne tombe pas du ciel. Donc, il y a deux types, finalement, de financements qu'on peut obtenir, et ça dépend de ce qu'on veut développer en tant qu'université. Donc, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir sur le temps quand même moyen ou long pour qu'un établissement se dise, si je veux développer des mobilités pour des étudiants avec un statut particulier et obtenir des financements pour avoir des mobilités qui soutiennent cette activité particulière ou qui correspondent aux besoins de ces étudiants, ça se pense en amont. En gros, Erasmus, c'est un financement que vous demandez une année N-1, que vous obtenez l'année N pour 2 ou 3 ans. Et il n'est pas renouvelable, en fait. Vous le demandez comme quand vous déposez un projet. Donc, vous dites, voilà ce que je voudrais faire. C'est pour ça que j'ai besoin de tel financement. C'est avec tel partenaire. Alors, quand c'est en Europe, c'est avec toute l'Union européenne globalement. Mais les établissements qui peuvent obtenir ces financements, ils ont déposé une charte Erasmus qui indique quelles sont leurs valeurs. Qui indique que, justement, par exemple, s'ils veulent avoir des activités particulièrement sur l'inclusion, sur les étudiants à besoins spécifiques, et comme on appelle ça en anglais « special needs », ça peut être la même chose sur les sportifs de haut niveau, par exemple. Donc, en fait, un établissement peut demander des financements avec un axe particulier de développement qu'il veut mettre en place. Il obtient un financement de la Commission européenne, qui est géré en France par une agence nationale à Bordeaux. Et derrière, à peu près tous les ans, il rend compte de ce qui s'est passé, de la qualité, de l'impact. Les étudiants, si vous êtes parti en mobilité, vous avez rempli un petit contrat, un petit questionnaire en ligne à la fin de votre mobilité où vous donnez votre point de vue. Donc, en fait, l'agence regarde aussi si la mobilité s'est bien passée et elle continue à donner du financement si tout se passe bien. Et puis, à la fin de ces 2 ans de contrat avec Erasmus, on fait un rapport et on dit comment, très littéraire, dans le sens où on écrit énormément sur voilà ce qu'on devait faire, c'est pour ça qu'on a obtenu de l'argent et ça s'est bien passé, ou alors il faut améliorer, etc. Donc ça, c'est sur l'Europe. Hors Europe, si on voulait imaginer... typiquement de développer, je vais parler de l'Indonésie avec les îles avec lesquelles on a un travail autour de la musicologie, par exemple. Là, on dépose réellement un projet extrêmement spécifique qui demande un nombre de mobilités, des activités clés qu'on doit réaliser. Et c'est sur ce projet-là qu'on obtient des financements ou pas. Donc, en fait, le sujet sous-jacent de tout le développement de mobilité internationale pour tous les statuts particuliers, c'est juste pourquoi faire. On ne fait pas de mobilité pour aller se promener, parce que Erasmus vous demande si vous avez développé vos valeurs européennes, si vous avez appris une langue, si vous avez appris des choses, si vous avez développé votre parcours professionnel. Donc en fait, c'est toujours pourquoi faire, et derrière, les dispositifs peuvent s'aligner, se complémenter, s'articuler pour en fait vous permettre de faire des mobilités. Mais c'est toujours, on va quelque part avec quelque chose en tête de très concret, et derrière, soit on le prépare en amont avec du virtuel et on fait la mobilité courte et on revient et on continue à dialoguer avec un établissement ou une association, etc. Soit on fait de la mobilité plus longue et sur place on développe des choses, soit avec par exemple les alliances universitaires, là vous tombez, les alliances européennes, vous tombez dans des choses extrêmement précises. Une alliance, c'est un projet européen qui a été déposé avec une vision de 3, 5, des fois 8 ou 10 ans, avec des activités phares qui, elles, sont financées dès le début. Donc, vous avez peu de choix, en fait. C'est-à-dire qu'on vous dit, l'année 3, il y aura un événement avec les étudiants autour d'un réseau d'étudiants artistes. Enfin, j'imagine quelque chose. Mais en gros, c'est déjà préécrit, c'est préétabli, c'est préfinancé et vous devez le faire. Donc, il y a différentes opportunités, mais il faut connaître le cadre pour rentrer dedans, en fait. Après, les cadres sont là aussi pour être un petit peu secoués, mais il faut quand même, à un moment, se dire le financeur ou le programme me donne ça comme cadre. Comment est-ce que moi, j'arrive à le faire bouger ou j'arrive à l'intégrer avec mon objectif pour rentrer cette année dans telle case, l'année prochaine dans une autre, ou le semestre prochain dans une troisième. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et après, on joue avec cet écosystème, mais on peut difficilement s'en passer. Alors, pour être totalement honnête, Erasmus nous finance des mobilités internationales et nous finance aussi un surplus pour soutenir ces mobilités. C'est-à-dire qu'on a un argent qui est lié au nombre de mobilités qu'on a demandé et qu'on obtient. Et on a un budget qui soutient la mobilité. Par exemple, l'un des exemples, c'est ce qu'on peut utiliser si on a un étudiant qui est en situation de handicap physique, qui nécessite par exemple un accompagnement du matériel spécifique, etc. On peut le financer avec ça. Mais c'est un budget qui est à côté d'Erasmus, qui est lié aux mobilités et qu'on peut quand même utiliser à des fins de mobilité très courtes ou à d'autres choses. Donc, les universités, si elles ont beaucoup de budget sur la mobilité européenne, en général, elles ont une partie qui est assez flexible, mais qui doit être liée à de la mobilité internationale et Erasmus. Ça permet quand même de faire de beaux projets et de financer un certain nombre de choses, mais il faut que ce soit stratégique pour l'établissement. Donc, c'est pour ça que c'est du moyen à long terme pour installer un financement spécifique et des projets spécifiques Erasmus liés à un statut particulier et sur de la mobilité internationale. Je ne sais pas, sur les alliances, en fait, où on vous avait plutôt mis l'exemple d'EC2U. L'exemple d'EC2U, voilà, ça c'est ce que disait Marion. Ce sont nos partenaires, en fait. Avec eux, on sait ce qu'on doit faire le mois 24, le mois 36. Tout a été écrit, un beau tableau qui a été déposé. C'est pour ça qu'on a obtenu des financements. Et si dans une alliance, il y a un axe précis sur le développement de la culture ou des activités artistiques, en fait, ce sera déjà dedans. En général, il n'y a pas la possibilité de créer une ligne supplémentaire. En revanche, il y a la possibilité d'aller chercher des financements Erasmus classique et de les utiliser pour nourrir ce partenariat particulier des alliances européennes. Mais ça se pense en amont, ça se pense l'année d'avant, en fait. Tout ce qui se passe comme mobilité au niveau d'un service des relations internationales, on l'a au moins pensé un an avant, voire un petit peu plus certaines fois. Certaines fois, voilà, quand on dépose et qu'on a 3 ans de budget, ça veut dire que quand vous arrivez la dernière année, voilà, ça a déjà été acté, financé, on sait pourquoi on le fait et on a moins de liberté. Donc, en gros, si vous commencez aujourd'hui, littéralement, à aller voir votre service DRI, ils peuvent déposer un projet au mois de février parce que ça, c'est le rythme européen. Et ça veut dire qu'à partir de septembre, potentiellement, il y aurait des ouvertures. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Pour nous, c'est bon. Après, sur l'alliance, non, il y avait juste le type de mobilité, mais elles sont, voilà, classiques. Soit c'est la slide d'après, je crois, la participation à des événements. Alors là, c'est la partie. On a fait un petit peu de recherche pour vous, Cécile, si tu veux commenter.
J'ai tout bêtement tapé mobilité internationale étudiant artiste et ça m'a sorti trois de la cytographie qui me semblait intéressante à partager avec vous. Le premier, c'est quelque chose qui s'appelle Programme Europe Créative. Donc là, c'est réellement un projet européen qui se dépose en fait auprès de l'agence Erasmus nationale, donc de Bordeaux. C'est un projet qui doit être déposé par une université détentrice de la charte. Et c'est un projet pour lequel les établissements de formation artistique peuvent obtenir des financements qui peuvent aller jusqu'à 450 000 euros pour une durée de 3 ans pour pouvoir financer des mobilités spécifiques justement pour les établissements de formation. Et là où c'est intéressant pour vous, enfin pour le public cible, c'est qu'ils peuvent demander des mobilités vers éventuellement. C'est lier des partenariats en fait avec ces universités-là pour pouvoir effectuer leur mobilité et travailler au sein, éventuellement, tisser des liens avec ces universités-là. Il y a également On The Move, qui est une plateforme pour pouvoir effectuer de la mobilité au sein de résidences d'artistes, tout comme les pépinières européennes de création. Donc là, ça concerne 32 pays. C'est vraiment, en fait, ils ouvrent des appels pour pouvoir effectuer de la mobilité internationale tout en pouvant pratiquer sa discipline.
Bon. Merci beaucoup pour ce survol des possibilités et la prise de position également. Donc, il nous a dit de manière, pas seulement pour cette université, mais je pense dans votre expérience, connaissez bien donc Erasmus, je pense que ça se transpose d'université en université et pour les différents dispositifs. Et je pense il y a aussi donc peut-être comme desideratum, il y a donc la possibilité d'une interface, la nécessité peut-être de voir avec le service dédié pour prévoir des choses à l'avance. Autre chose que personnellement j'ai retenu, donc l'importance aussi dans la durée un peu de soutien donc stratégique des universités qui souscrivent donc cette idée de vouloir développer la coopération internationale dans le domaine donc des projets artistiques. On passe donc de la vue globale au détail, donc Lily Rosebound, elle a donc préparé une enquête auprès de nos partenaires. Donc nous tenons à souligner, donc c'est préliminaire, c'est-à-dire on a fait avec les interlocutrices et interlocuteurs qu'on a trouvés et les résultats ont été parfois très surprenants. Voilà, je passe donc.
Merci Marion. Donc, oui, comme expliqué, on a fait un sondage flash auprès des universités partenaires de l'Alliance qu'on a fait autour de 3 grandes questions donc, qui étaient dans un premier temps l'existence éventuelle ou non du statut étudiant artiste confirmé dans les universités, la possibilité d'aménagement de l'emploi du temps ou non pour ces profils et enfin la faisabilité d'une mobilité, notamment courte, puisque on se doute qu'une mobilité longue, et là surtout ayant entendu le cas de Lucia et Romane, on se dit que je pense qu'une mobilité longue dans ce cadre-là, c'est un peu compliqué. Donc là, dans un premier temps, la première difficulté, ça a été la langue d'échange, puisque avec nos différents partenaires de l'Alliance, on échange toujours en anglais. Donc, il a fallu traduire ce concept d'étudiant artiste confirmé en anglais, ce qui n'est pas évident parce qu'il n'y a pas d'équivalent direct. Donc, avec l'aide de Marion, on a trouvé une traduction qui passe plus ou moins, qui est donc Professional or Established Artist Enrolled in Higher Education Student Status. Et c'est un titre à rallonge où on perd tout le monde. Et donc, moi, on s'est dit dans un premier temps que ça communiquerait plus ou moins l'idée d'un étudiant ayant une pratique artistique en parallèle avec ses études. Mais au fil des échanges que j'ai eus avec les universités, que ce soit des échanges par téléphone, par mail ou en visio, et aussi à noter que pour la plupart des cas, l'anglais n'est pas leur langue maternelle non plus, donc il y a également cette barrière de la langue qui est là aussi. Mais je me suis rendu compte que même cette traduction-là n'était pas vraiment hyper comprise. Bon, je ne leur en veux pas pour le coup, parce que c'est hyper long. Donc moi, je me suis dit dans un premier temps, et puis ça, c'était aussi à la suggestion de Sybille, donc merci, de faire le parallèle avec les sportifs de haut niveau et voir déjà s'il y a un modèle qui est plutôt semblable à celui qui est celui des sportifs de haut niveau et les aménagements d'emploi du temps qui peuvent être proposés dans ce cas, puisque dans de nombreuses universités européennes, les athlètes bénéficient déjà du statut de dual careers, donc j'en parlerai un petit peu plus tard, qui leur permet d'adapter les études à leur pratique compétitive. Donc cette comparaison a permis aux interlocuteurs de mieux cerner le type d'accompagnement et d'aménagement dont je parlais. Et en complément de ce parallèle, il m'a paru aussi pertinent de faire des exemples plus concrets. Donc là, je pense que les deux exemples aujourd'hui auraient été parfaits. Mais là, pour le coup, j'ai fait plutôt l'exemple d'un étudiant en médecine qui est également pianiste professionnel ou, pour donner un exemple avec les étudiants sportifs de haut niveau, un étudiant en droit, par exemple, qui est basketteur professionnel. Et le fait de donner ces deux exemples-là, déjà, ça commençait à leur parler un petit peu plus. Donc j'ai eu des retours de 6 universités, donc j'ai eu un retour de Jena en Allemagne, Linz en Autriche, Umeå en Suède, Turku en Finlande, Salamanque en Espagne et Iași en Roumanie. Et comme disait Marion tout à l'heure, je ressouligne que c'est vraiment un échantillon très restreint. Donc pour la plupart des universités, j'ai échangé avec un seul interlocuteur et il ou elle n'était pas toujours attaché au service culturel à proprement parler. Et n'était pas forcément familier avec ce statut, voire pas du tout familier avec. Donc les informations que je vous présente aujourd'hui sont vraiment le reflet de cet échange-là et pas une cartographie précise. Dans un premier temps, donc, le retour que j'ai eu de l'université de Jena en Allemagne, c'est qu'il n'y a pas de cursus en musique, danse ou théâtre à proprement parler. Mais l'université dispose cependant de 2 chorales étudiantes et d'un orchestre universitaire qui est très actif et de bon niveau. Et ils répètent chaque semaine et peuvent se produire plusieurs fois par an. Le centre sportif propose également des cours de danse et il arrive que les groupes de théâtre se forment ponctuellement à l'initiative soit des étudiants, soit des enseignants. Mais toutes les activités sont extracurriculaires, donc tout a lieu en dehors du cadre académique et les étudiants doivent donc adapter eux-mêmes leur emploi du temps. Il y a des exceptions cependant qui peuvent être faites c'est par exemple un orchestre qui est fortement impliqué. Ils peuvent demander ce qu'ils appellent un congé temporaire, par exemple s'ils ont une tournée musicale et là ils vont être excusés des cours et ne vont pas être pénalisés pour leur absence. Concernant les mobilités, elles n'ont pas à ce jour été envisagées. Une ouverture pourrait toutefois exister à travers le réseau EC2U, mais comme on disait, ça reste encore tout nouveau et on commence tout juste à porter cette idée-là. Donc, dans un deuxième temps, donc l'université de Salamanque en Espagne, eux, ils ne proposent pas de formation artistique de haut niveau. C'est au Conservatorio Superior de Musica de Castilla y León, qui est situé dans la même ville, qui offre des diplômes en musique, mais il n'appartient pas à l'université. Donc à l'intérieur de celle-ci, on trouve seulement quelques enseignements optionnels autour de la musique et de la danse, principalement intégrés aux formations de professeurs des écoles. Il y a des cours complémentaires ou estivaux en art du spectacle, que ce soit théâtre, danse ou dramaturgie, ainsi que des ateliers culturels internes comme un groupe de théâtre universitaire, mais c'est des initiatives qui sont plutôt niveau amateur, donc pas un niveau confirmé. Il n'y a pas d'aménagement d'emploi du temps qui est prévu pour les étudiants artistes et toutes les activités doivent avoir lieu en dehors du cadre des cours et en dehors des heures de cours. Et là, il n'y a pas d'aménagement proposé du tout. Cependant, il y a des aménagements qui sont proposés pour les sportifs de haut niveau. Donc ceci, ça pourrait être déjà un premier pas vers un aménagement pour les artistes confirmés. Et ça rebondit également sur, mais ça j'y reviendrai à la fin, sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur lequel est venu en premier, plutôt ce statut de sportif de haut niveau ou le statut d'étudiant artiste confirmé. Et est-ce que l'un pourrait être l'exemple pour l'autre ? Ensuite, dans un troisième temps, à l'université de Linz, ils n'ont pas non plus de statut équivalent à celui qu'on a ici, mais l'université collabore avec une école d'art dans le cadre du programme Art Science School for Transformation, qui est un programme interdisciplinaire qui explore les liens entre sciences et pratiques artistiques mais sans formation artistique formelle. C'est un programme qui est ouvert aux étudiants Erasmus, mais il ne prévoit pas d'aménagement particulier d'emploi du temps. En dehors de ce cadre, il n'y a pas d'enseignement en musique, théâtre ou danse qui est proposé. Mais en parallèle, il y a un autre projet qui est The Circus of Knowledge, qui vise à traduire la recherche scientifique en création artistique, que ce soit à travers le théâtre ou la danse, etc. Mais la participation des étudiants reste à ce jour assez rare et pas spécialement encadrée. Il n'y a pas encore de mobilité qui ont été réfléchies à ce jour dans cette université. Ensuite, on passe à l'université de Iași en Roumanie. Donc, ils ont une chorale interfacultaire qui rassemble les étudiants de différentes disciplines. C'est une activité, encore une fois, extrascolaire à laquelle les étudiants participent en adaptant eux-mêmes leur emploi du temps. De leur côté, l'université a exprimé un intérêt très favorable pour des futures mobilités, notamment sous forme de BIP, mentionnant que ça pourrait être une belle opportunité. Là, vraiment, ils avaient en tête une vingtaine d'étudiants et pour pouvoir mettre en place une forme d'échange de ces étudiants artistes. Ensuite, à l'université de Umeå en Suède, il n'y avait pas de représentants officiels au moment des échanges. Donc malheureusement, ça a vraiment limité le retour, la qualité des retours que j'ai eu de la Suède. Donc j'ai plutôt voulu rebondir sur à nouveau les sportifs de haut niveau pour voir déjà s'il y avait des aménagements qui étaient mis en place. Et ils ont le dispositif de Duo Careers, donc ça permet aux sportifs de haut niveau d'avoir des aménagements d'études avec un rythme adapté, plus ou moins adapté en fonction des compétitions. Et c'est encore une fois un modèle qui pourrait servir pour développer un dispositif équivalent destiné aux étudiants artistes. Et à nouveau, il n'y a pas de dispositif encore mis en place pour les mobilités. Mais selon la représentante que j'ai eue qui n'était pas dans le service culture, elle semblait penser que c'était même faisable et assez encourageant même. J'irai. Et donc, pour terminer, l'université de Turku en Finlande, ils n'ont pas de cursus artistique au sens strict, mais ils proposent des enseignements en histoire de l'art et art du spectacle. L'art dans cette université est présent par contre à travers les initiatives interdisciplinaires. Donc, ils ont pas mal de projets qui vont mêler art et sciences et qui sont souvent impulsés par les étudiants ou les chercheurs. Ou les enseignants-chercheurs, qui sont parfois eux-mêmes artistes. Donc, pour vous donner un exemple, dans le programme d'ingénierie axé sur les matériaux durables, on a le professeur Michael Nyberg, qui est à la fois photographe et artiste origamiste, et il intègre ses pratiques artistiques directement à sa pédagogie. Et il encourage ses étudiants à visualiser la connaissance scientifique à travers la création artistique, notamment par la photographie et les structures inspirées d'origami. C'est une approche qui s'inscrit dans une dynamique plus large au sein de l'université qui est de rapprocher art et recherche scientifique, non pas comme deux disciplines séparées, mais plutôt comme des modes de compréhension complémentaires du monde. On retrouve également cette philosophie ailleurs dans l'établissement. On a le professeur Pekka Valitu, qui est doyen faculté de médecine et chercheur en sciences des matériaux, et lui-même est artiste. Notamment, ils lui ont accordé un aménagement de temps puisque celui-ci a il a une exhibition d'art, c'est comme ça qu'on dit ? Une exposition, pardon, d'art. Et donc il peut avoir des aménagements justement pour s'y rendre et travailler aussi en collaboration avec l'université qui est invitée à chaque fois pour se rendre là-bas et d'un autre côté, donc côté étudiant, l'université fait preuve d'une flexibilité institutionnelle puisqu'ils ont des parcours qui peuvent être adaptés pour la poursuite d'activités artistiques ou sportives. Et à Turku, il semble que ce soit une activité artistique ou sportive, les mêmes aménagements sont proposés. Donc là, ils n'ont pas pu me donner d'exemple d'artistes confirmés là-bas puisque je pense que le statut en tant que tel n'existe pas. Mais ils m'ont donné l'exemple de Salia Kosonen, qui est la championne d'Europe en lancer de marteau. Et elle est étudiante en allemand dans la faculté des humanités. Et elle combine donc le succès de ses études et de sa carrière avec un aménagement d'études et une reconnaissance également de la part de l'université, puisqu'elle était au JO à Paris en 2024. Donc même si ce dispositif concerne aujourd'hui donc plutôt les athlètes, puisque c'est celui que j'ai eu comme exemple, ça montre quand même une souplesse administrative et pédagogique qui pourrait très facilement s'appliquer à des artistes professionnels ou confirmés. Et enfin, le point le plus prometteur de ce projet, l'université a exprimé un intérêt très clair pour développer un programme de mobilité courte, surtout sous forme de BIP, autour des profils hybrides art et sciences, notamment puisque eux, ils étaient très intéressés de découvrir vraiment le statut que nous, on a ici, qui est vraiment défini avec des critères. Et que nous, on puisse également, de notre côté, découvrir comment eux, ils arrivent à mêler l'art au sein des différentes disciplines. Et ils m'ont demandé directement quand est-ce qu'on peut le mettre en place. elle m'a dit également, ce serait plutôt au sein de la faculté de lettres et sciences humaines qui a été identifié comme un partenaire clé pour ce type d'initiative. Globalement, il n'y a aucun des établissements interrogés qui dispose du statut comme nous on a ici. Et les pratiques artistiques relèvent presque partout de l'extrascolaire, donc que ce soit des chorales, orchestres, ateliers ou initiatives ponctuelles d'étudiants. Lorsqu'il existe des aménagements d'études, ils concernent essentiellement les sportifs de haut niveau, donc comme à Umeå, ce qui montre que ce serait possible de s'inspirer de ce modèle pour les artistes. Dans ce contexte, Turku se démarque nettement. Même sans cursus artistique dédié, l'université valorise les liens entre art et sciences et offre une réelle flexibilité dans les emplois du temps et manifeste un intérêt concret pour la mise en place d'un BIP. Donc, cela en fait aujourd'hui un partenaire clé pour réfléchir à la mise en place de futures mobilités aux étudiants ayant une pratique artistique reconnue. Donc, en résumé, les retours montrent surtout une absence de cadre formel au niveau de ce statut, mais aussi une ouverture et une curiosité croissante autour de la question à l'échelle européenne. Voilà.
Bon, merci beaucoup pour ce panorama aussi très détaillé. Et je pense, juste pour résumer, parce que les maîtres de l'horloge devraient déjà bientôt couper. Donc, ça montre un peu le potentiel et aussi le travail qui est encore devant nous. Donc, je pense déjà le statut lui-même d'être étudiante ou étudiant artiste confirmé dans une filière qui n'est pas artistique, bien entendu, c'est un défi en tant que tel. Et donc j'ai retenu surtout que donc pour l'avenir, ce qui se dessine, c'est le défi de la médiation, voire de la traduction dans les faits. Donc comment s'entendre donc avec nos partenaires en Europe. On peut apprendre d'eux. Ils peuvent peut-être aussi s'inspirer de certaines choses qu'on a à proposer. Donc le paysage reste très hétérogène, ça invite au bricolage, mais peut-être ce serait aussi souhaitable de dépasser cette situation très provisoire. J'ai aussi l'impression que au niveau individuel, ça risque de rester plus longtemps, plus compliqué qu'au niveau collectif, c'est-à-dire dans le cadre des BIP qui sont forcément des entreprises collectives ou des festivals où il y a des très beaux exemples comme le festival Accor, où il y a des groupes d'autres universités qui arrivent partager leur production avec nous. Je pense que si on nous permet encore un tout petit peu de temps, on pourrait peut-être accueillir vos questions et essayer d'y répondre. Sinon, je pense qu'on laisserait ça pour un moment convivial où tout le monde peut nous envoyer ou nous dire leurs questions et nous essaierons d'y répondre autant que possible. Et si vous avez aussi vos propres expériences à partager, nous sommes aussi preneuses. Bon, merci beaucoup aux intervenantes et aussi à vous, au public.